VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonjour à tous et à toutes, le monde aujourd'hui, édition du vendredi 23 novembre 2018. En direct de Washington, Idrissa Seloulia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
À Brazzaville, l'absentière des avocats de l'État au procès sur le drame de Chacona.
En République démocratique du Congo, le ministre de l'Intérieur ne peut pas confirmer la décapitation de 3 militants du parti présidentiel au Kassai.
Au Sénégal, le Premier ministre promet au président Macky Sall une réélection au premier tour en février prochain.
Ici aux États-Unis, le président Donald Trump relance son débat public avec le président de la Cour suprême sur l'indépendance du judiciaire.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
Au Congo-Brazzaville, les avocats de l'État ne se sont pas présentés hier au procès sur le drame de Chacona à Talangaï. Il s'agit de la mort de 13 jeunes dans un commissariat de police et l'État congolais, reconnu civilement responsable par le juge, doit assister au procès. Les explications de notre correspondant à Brazzaville, Arsène Séverin.
L'audience d'hier n'a duré qu'une quarantaine de minutes. Les débats se sont focalisés sur la participation ou non de l'État au procès, cité civilement responsable dans cette affaire. Pour les avocats de la partie civile, il faut que l'État soit représenté à ce procès. Selon maître Eric Yvon Ibuanga, la présence de l'État faciliterait la comparution des officiers de police que la partie civile compte citer au cours du procès. Le parquet de Brazzaville a estimé avoir fait son travail en déposant la saisine du tribunal auprès du ministère de la Justice, demandant à l'État d'être représenté. Désormais, la balle est du côté du tribunal, a déclaré le procureur de la République. De leur côté, les avocats de la défense, qui ont la charge d'une douzaine de policiers, ont plaidé pour que le procès aille vite dans le fond, car la loi congolaise ne reconnaît pas la responsabilité pénale d'une autorité morale. Le jugement a donc été renvoyé au 6 décembre, un renvoi ferme pour permettre à l'État de se constituer et de suivre les débats. En juillet dernier, 13 jeunes avaient trouvé la mort dans un commissariat de police à Talangaï. Les parents avaient porté plainte contre l'État. 12 policiers, dont 2 adjudants-chefs, sont accusés d'homicide involontaire et comparaissent comme détenus à la maison d'arrêt. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
De l'autre côté du fleuve, en République démocratique du Congo, le ministre de l'Intérieur, Henri Mova, a déclaré hier ne pas pouvoir confirmer le meurtre par décapitation de 3 militants du parti présidentiel au Kassai, dans le centre du pays, comme annoncé par la famille d'un des 3 hommes. J'en ai entendu parler par un candidat. Il dit que 3 de ses mandataires auraient été tués dans ces conditions-là, mais sans indiquer les lieux et les circonstances, a déclaré à l'AFP, Monsieur Mova.
Au Sénégal, la coalition du président Macky Sall a lancé la mobilisation pour sa réélection dès le premier tour, alors que ses principaux rivaux ont été écartés de la course par des décisions judiciaires. Le point avec Jean-Roger Bion.
Le parti au pouvoir a lancé son rouleau compresseur à 3 mois de la présidentielle au Sénégal. Le 24 février, jour du premier tour à 18h, le tour sera déjà joué, a déclaré le premier ministre Mohamed Boun Abdallah Diagne lors de la réunion d'investiture du président sortant organisée par les cadres de la majorité, selon des propos rapportés jeudi dans la presse sénégalaise. D'autres cérémonies sont prévues ces prochains jours par des sections du parti au pouvoir, APR, Alliance pour la République. Le congrès de l'investiture officielle du président Macky Sall aura lieu le 1er décembre à la Dakar Arena dans la ville nouvelle de Diamnadio, à une trentaine de kilomètres de la capitale, a indiqué jeudi un responsable de la communication de la majorité. Face à Macky Sall, élu pour 7 ans en 2012, l'opposition peine à faire émerger un candidat. L'ancien maire de Dakar, Alifa Sall, révoqué après la confirmation en appel en août de sa condamnation à 5 ans de prison pour escroquerie, ne peut miser que sur un hypothétique succès de son pourvoi en cassation pour encore espérer pouvoir se présenter. Le fils de l'ancien président Abdoulaye Wade, Karim Wade, a quant à lui bien été investi par le Parti démocratique sénégalais, PDS, mais il a été radié des listes électorales après sa condamnation en 2015 à 6 ans de prison pour enrichissement illicite par la Cour de répression de l'enrichissement illicite, CREI, dont les décisions ne peuvent faire l'objet d'un appel. Macky Sall a toutefois évoqué la possibilité d'une amnistie en faveur de Karim Wade et de Khalifa Sall, mais après sa réélection.
Au Nigeria, une cinquantaine de villageois partis chercher du bois de chauffe près de la frontière entre le Nigeria et le Cameroun ont été enlevés par des membres présumés de Boko Haram le week-end dernier. C'est ce qu'ont annoncé hier des sources sécuritaires. Les villageois avaient été encouragés à retourner chercher du bois dans la forêt de Wulgo et la brousse autour de Gamboro après que l'armée et les milices ont affirmé avoir délogé les djihadistes de la région, a rapporté un autre membre des milices locales. Les bûcherons sont régulièrement soupçonnés par les insurgés de relayer des informations sur les mouvements des djihadistes.
En Côte d'Ivoire, le célèbre musée des civilisations d'Abidjan, pillé lors de la crise post-électorale en 2011, a lancé hier un manifeste de la collection Fantôme. L'objectif, sensibiliser à la protection du patrimoine et dire non à la culture du vide. Des détails avec Irénée Herman Ungbo.
En signant ce manifeste, je m'engage à protéger le patrimoine de mon pays et à refuser que les trésors nationaux tombent dans l'oubli, conclut le texte qui rappelle l'existence de la collection disparue. Le manifeste sera distribué dans les deux districts autonomes et dans chacune des 31 régions de Côte d'Ivoire. Il doit être signé non seulement par les autorités, mais aussi par les citoyens. En faisant de cette collection disparue une collection fantôme, les Ivoiriens refusent non seulement de la laisser mourir, mais également s'engagent ainsi à agir pour que les objets perdus restent dans les consciences et participent d'une sensibilisation générale. Nous voulons jouer au niveau des comportements, amener les uns et les autres à prendre conscience de la nécessité de préserver le patrimoine, explique Sylvie Memel-Cassi, directrice du Musée des Civilisations. Le musée va d'ailleurs organiser en 2019 une exposition collection fantôme avec des photographies des pièces similaires aux pièces disparues, ainsi que des travaux d'élèves d'Abidjan et d'Evry en banlieue parisienne qui ont travaillé sur le sujet. Il y aura aussi des vitrines vides pour bien montrer que les pièces sont manquantes, précise Madame Memel-Cassi. Le musée complètement rénové après 2 ans de fermeture a rouvert ses portes en 2017.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Ici aux États-Unis, le président Donald Trump a commencé hier son Thanksgiving, la journée d'action de grâce, par la relance de son débat public avec le président de la Cour suprême, John Roberts, sur l'indépendance du système judiciaire. C'était lors d'une téléconférence avec les troupes américaines déployées à l'étranger. Le juge Roberts avait estimé la veille que M. Trump ne comprenait pas le rôle du judiciaire après des critiques de ce dernier contre, je cite, « des juges pro-Obama », une expression que rejette le président de la Cour suprême, nommé par le président républicain George W. Bush.
Par ailleurs, le président Trump, qui se trouve à Mar-a-Lago pour le Thanksgiving, a menacé hier de fermer toute la frontière entre les États-Unis et le Mexique, perturbant des relations commerciales estimées à 1,68 milliard de dollars par jour, si son gouvernement n'arrive pas à contrôler l'afflux de migrants sans papiers venant d'Amérique latine. Monsieur Trump a aussi réaffirmé les propos de son secrétaire à la Défense, Jim Mattis, qui avait dit mercredi que les troupes américaines déployées à la frontière ont l'autorisation d'user de la force létale, si nécessaire, pour défendre les agents de la patrouille frontalière américaine.
L'Iran ne voit pas l'intérêt de rouvrir les discussions avec les États-Unis sur l'accord nucléaire, faute d'avoir des garanties sur le respect d'un nouvel accord, Baba Bagasikoura.
La déclaration a été faite hier à Rome par le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif. Si nous devions conclure un nouvel accord avec les États-Unis, quelles garanties aurions-nous que l'accord durera après la durée du vol? Vous vous souvenez du Canada, a lancé M. Zarif devant la conférence mai de 2018 consacrée à la Méditerranée. En juin, le président américain Donald Trump a retiré sa signature de la déclaration finale publiée à l'issue d'un sommet des pays du G7 au Canada. À peine son avion avait-il décollé. En mai, les États-Unis ont annoncé leur retrait unilatéral de l'accord international sur le nucléaire iranien conclu en 2015, qualifié de désastre et imposé début novembre de nouvelles sanctions à l'encontre de l'Iran. Téhéran continue toutefois de respecter ses engagements vis-à-vis de cet accord, selon le dernier rapport de l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, publié le 12 novembre.
Au Pakistan, deux policiers ont été tués vendredi alors qu'ils empêchaient des hommes armés de prendre d'assaut le consulat de Chine à Karachi, la plus grande ville du pays. Le groupe, qui pouvait compter jusqu'à 4 hommes, a été intercepté à un premier checkpoint par les gardes, a déclaré à l'AFP un officier de la police pakistanaise. Un échange de tirs avec les assaillants a tué 2 policiers et en a blessé sérieusement un 3e, a-t-il ajouté. Un mouvement séparatiste, l'armée de libération du Baloutchistan, une province instable du sud-ouest du Pakistan, a revendiqué l'attaque.
Le secrétaire général adjoint de l'ONU pour les affaires humanitaires, Mark Lowcock, et la directrice de l'agence onusienne UNICEF pour les enfants, Henrietta Fore, ont appelé hier les belligérants au Yémen à épargner l'hôpital Al-Thawra à Hodeïda, principal front de guerre. Nous sommes particulièrement inquiets au sujet de cet hôpital crucial pour des millions de personnes dans la région d'Hodeïda, soulignent les 2 responsables dans un communiqué conjoint. Ces services incluent un département contre la malnutrition, 2 unités médicales d'urgence, notamment pour les nouveau-nés, et un centre de traitement contre le choléra. Plus de 81 000 enfants ont été soignés dans cet hôpital en 2017 et le chiffre dépasse 45 000 jusqu'à présent pour cette année, ajoute-t-il.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Nanit Talani.
Selon l'agence Reuters, le Soudan a signé un accord avec une société étatique turque lui permettant d'exploiter de l'or et d'autres minéraux dans 2 zones de la mer Rouge. Cet accord devrait aider le Soudan à relever son économie, mise en difficulté depuis que le sud du pays a fait sécession en 2011, emportant les 3/4 de ses productions de pétrole. Le Zimbabwe baisse de 5% les salaires des hauts fonctionnaires, dont les ministres et le président. En plus, il initie l'inscription biométrique des membres de la fonction publique pour supprimer les travailleurs fantômes. Ces mesures, qui prendront effet à compter de janvier 2019, sont destinées à réduire les dépenses d'un État aux abois. Les salaires des fonctionnaires absorbent jusqu'à 90% des revenus du Zimbabwe, plongés dans une crise économique et financière depuis 2 décennies. Terminons avec l'Angola et la Namibie qui viennent de signer un mémorandum d'entente relatif au secteur énergétique selon l'agence Ecofin. L'accord prévoit la construction d'un barrage électrique d'une capacité de 600 MW dans la région de Ruacana, dans le nord de la Namibie, à la frontière angolaise. Les travaux vont commencer d'ici à 2021 et vont durer 54 mois. Les 2 pays se partageront sa production en 2 parties égales.
À présent, les sports avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Poussé vers la sortie, Girard dénonce une campagne de déstabilisation.
Arrivé fin septembre au Wydad Casablanca, René Girard affirme avoir été convoqué le 12 novembre par le président du club qui lui a signifié qu'il ne serait plus l'entraîneur du WAC en raison d'une série de mauvais résultats. René Girard n'était pas présent sur le banc de son équipe hier pour la rencontre face au Youssoufia Berechid. L'entraîneur adjoint du WAC, Moussa Ndao, l'a remplacé. Dans un communiqué, l'entraîneur français de 64 ans dénonce, je cite, une campagne de déstabilisation très brutale avec comme but de mettre une forte pression psychologique et judiciaire sur lui et ses adjoints.
Bertrand Traoré se dit troublé après sa mise à l'écart en club.
Oui, l'attaquant burkinabé n'a pas du tout digéré le fait qu'il a été écarté lors de la rencontre contre Guingamp avant la trêve internationale. Il n'est pas le seul à être passé à travers, mais de là à ne pas être dans le groupe, il a été déçu car ça arrive d'être moins bien et en plus, on ne lui a pas donné d'explication à confier son frère Alain dans les colonnes de l'équipe. L'ancien joueur de Chelsea est auteur de 12 matchs et 4 buts en Ligue 1 cette saison. Lyon affronte Saint-Etienne ce soir dans un derby et ses fans espèrent le voir dans le groupe de Bruno Genesio.
Mauvaise nouvelle pour Jean Aholou.
Malheureusement miné par des pépins physiques depuis 1 mois, le milieu de terrain de l'AS Monaco a dû être opéré du pied gauche. Il sera absent 5 semaines, a indiqué le club du Rocher. Il faudra donc attendre l'année 2019 pour revoir l'international ivoirien sur les terrains.
Emery estime qu'Arsenal avait besoin d'être secoué.
Arsenal était en chute libre et avait besoin d'être secoué après les 22 années de mandat d'Arsène Wenger. C'est ce qu'a affirmé Unai Emery. Le technicien espagnol a expliqué n'avoir pas évoqué l'état de l'équipe londonienne avec Wenger. Pour l'ancien entraîneur du Paris Saint-Germain, Arsenal doit allier la solidité défensive, l'une de ses vertus historiques, aux attaques enthousiastes de l'époque Wenger. Après 12 journées de Première Ligue, les Gunners sont 5e au classement avec 24 points, à 8 longueurs du leader Manchester City. Arsenal se déplace dimanche à Bournemouth pour le compte de la 13e journée.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
En votre compagnie, Idrissa Sedoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Mali, 500 personnes ont été tuées entre janvier et août 2018. Dans le centre du pays, 1200 au cours des deux dernières années. C'est ce qui ressort du rapport de la FIDH et de l'Association malienne des droits de l'homme, l'AMDH. Ce rapport est rejeté par le gouvernement qui estime que les accusations portées contre les FAMA, les forces armées maliennes dans le centre, sont infondées, précise notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré.
Ces deux dernières années, une cinquantaine de villages ont été brûlés et au moins 30 000 personnes ont fui le centre du pays. Cela à cause des attaques djihadistes qui ont fait, d'après les rapports, 1200 civils tués. Maître Mokhtar Mariko, président de l'Association malienne des droits de l'homme AMDH.
L'escalade des violences au centre du Mali est en passe de devenir hors contrôle et ne se résoudra pas à coup d'opérations militaires spectaculaires sans retour d'un état fort, juste, qui entreprendra de rétablir les liens avec les communautés. La terreur djihadiste et les affrontements entre communautés continueront de prospérer. Le rapport présenté aujourd'hui est basé sur plus de 120 interviews et témoignages de rescapés, de témoins, anciens djihadistes et responsables locaux. Il recense une série de meurtres et de tueries en les inscrivant dans la dynamique régionale des violences.
Les forces armées maliennes, les FAMA, sont indexées par ces rapports. En fait, faisant allusion à l'opération antiterrorisme d'Ambé qu'ils ont lancée en février 2018.
Au cours de plusieurs opérations, dont 6 sont détaillées dans ce rapport, des unités de FAMA ont arrêté et exécuté 67 individus présentés comme des terroristes et ont fait disparaître leurs corps dans les fosses communes. La majorité des victimes sont civiles, c'est-à-dire des peuples assimilés souvent aux djihadistes. Certaines opérations antiterroristes de FAMA ont été de véritables expéditions punitives, répondant au même mode opératoire. Arrestation sur la base des listes de noms, exécution sommaire, enfouissement des corps dans les fosses communes. Ces crimes n'ayant donné lieu à aucune condamnation risquent de se poursuivre alors qu'ils sont commis contre des civils désarmés.
Le gouvernement de la République du Mali considère ces rapports comme des allégations qui ne sont corroborées par aucun fait. C'est ce qu'a déclaré Amadou Koïta, ministre porte-parole du gouvernement malien.
Le gouvernement de la République du Mali, comme vous le savez, c'est un gouvernement responsable, soucieux des droits humains. Et à chaque fois que nous avons été saisis par des cas de violation flagrante des droits humains. Le gouvernement a toujours ordonné des enquêtes pour soutenir les responsabilités. Le gouvernement de la République du Mali tient à informer de façon catégorique qu'aucune consigne n'a été donnée à nos forces armées de sécurité de cibler quelque ethnie que ce soit. Et nous tenons également à informer qu'il n'y a aucune preuve laissant croire que nos forces armées et de sécurité ciblent sinon sans peine à une ethnie donnée.
Le rapport en question compte 97 pages et pointe du doigt les djihadistes comme premiers responsables de la terreur et de l'instabilité dans le centre du Mali. Maître Mokhtar Mariko.
Sous l'impulsion d'Amadou Koufa, un prédicateur local devenu un des chefs de la nobuleuse Al-Qaïda au Sahel, la Katiba Massina a ciblé militaires, représentants de l'État, chefs traditionnels, religieux et toute personne opposée à leur vision rigoureuse de la religion.
La publication du dit rapport a été précipitée selon le ministre Amadou Koïta, car il ne prend pas en compte les informations du gouvernement malien.
La lutte contre le terrorisme n'est pas une lutte facile. Et nous pensons également que quand il y a ces rapports ce genre et qu'on saisit le gouvernement, on doit d'abord attendre la réponse du gouvernement avant de publier. Et nous pensons que le combat contre le terrorisme va au-delà du seul Mali. C'est un combat que nous devons tous mener ensemble, car notre seul ennemi aujourd'hui est le terrorisme.
Selon le même rapport, 500 personnes ont été tués au Mali entre janvier et août 2018, le tout au centre du pays. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Restez branchés 24/24 sur VOA Afrique à Bamako, au Mali, sur 102.0 FM.
Au Tchad, le président du parti d'opposition UDP, l'Union des démocrates pour le développement et le progrès, exige du gouvernement la clarification de la situation dans le Tibesti en proie à la violence armée. Max Kemkoy invite les deux protagonistes, le gouvernement et le groupe rebelle, à la table de négociation afin d'épargner la vie des civils. Le point avec notre correspondant N'Djamena André Kodmadjingar.
Quand les Tchadiens meurent, un homme politique responsable ne peut se taire, estime Max Kemkoy, président de l'UDP. Il appelle à la cessation immédiate des hostilités meurtrières et d'envisager une négociation pour une solution politique.
Déclarer utiliser tous les moyens dans le jargon de la guerre suppose aussi l'usage même des armes chimiques si celles-ci se trouveraient à la portée du gouvernement. Le gouvernement doit sortir de la surenchère verbale et de la rhétorique guerrière pour traiter le problème en appelant les choses par leur nom et non de se cacher derrière les épées. Peut-être facile ou un habillage de réalité. Un groupe armé est un groupe armé. S'il est constitué et qu'il a un nom, les Tchadiens veulent savoir qui est-il, quelles sont ses revendications. Que veut-il? A-t-il raison ou tort d'agir de la sorte?
Une sortie médiatique qui fait suite à celle de l'ex-ministre en charge de la sécurité publique. Ahmad Mohamed Bachir avait déclaré que le gouvernement tchadien n'entend pas négocier avec les groupes armés, mais envisage plutôt une option militaire.
On n'a pas à négocier avec des voyous ou des mercenaires. Être mécontent et prendre une arme et venir demander la négociation, aucune négociation. À la guerre comme à la guerre.
Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Oumar Yahya, indique pour sa part qu'il n'y a pas un groupe constitué de rebelles sur le territoire tchadien. Ceux qui écument les localités de Miski et Yeboubou sont des terroristes.
Les rebelles sont où et à quel niveau? Nous faisons face à des groupes armés, il faut bien le préciser, qui raquettent, qui rançonnent les paysans et citoyens et ils doivent être traités comme tels.
Et le président de la République a toujours tendu la main à tous ceux qui veulent rentrer. Il y a même une amnistie. Si les gens veulent vraiment participer au développement du pays, ils doivent en tout cas saisir cette perche-là. Ceux qui s'opposent au gouvernement, je crois qu'il n'y a pas autre solution que de leur opposer les armes. Et ça, c'est clair.
Le président de l'UDP, Max Kemkoy, déclare par ailleurs que le problème qui se pose au nord et à l'est du pays est d'ordre politico-administratif et non un problème militaire.
Une population n'est pas d'accord avec une réorganisation ou un découpage administratif. Quand une population réclame ses droits à travers la demande d'application du code minier quant à l'exploitation aurifère, laquelle exploitation doit dégager une redevance à reverser à la zone productrice, si celle-ci se fait de façon industrielle, tout ça n'est qu'une revendication légitime et le pouvoir doit entendre.
Max Kemkoy exige du gouvernement l'arrêt immédiat des bombardements disproportionnés dans la province de Tibesti. Il lance un appel aux organisations humanitaires d'abréger les souffrances humaines de la population des localités en proie à la violence déportée à Faya, chef-lieu de la province du Borku. André Kodmadjingar N'Djamena, VOA Afrique.
VOA Afrique, N'Djamena, c'est 93.1 FM au Tchad.
Comment faire pour relancer le secteur de la littérature au Bénin? La question préoccupe les acteurs de ce secteur qui souhaitent redynamiser la culture du livre dans le pays, nous dit la correspondante de VOA Afrique à Cotonou, Ginette Fleur Adondé.
Autrefois, quartier latin de l'Afrique, bien de réalités sont venues ternir cette image, objet de fierté du Bénin. La littérature, par exemple, connaît des soucis majeurs. Esquil Agbo est chroniqueur littéraire et délégué général des rencontres internationales du livre au Bénin.
L'auteur béninois n'est pas connu, l'éditeur béninois n'est pas connu, le chroniqueur littéraire n'est pas connu. Ils se connaissent peut-être entre eux, collègues. Les auteurs béninois existent. Ils ont de très belles plumes, mais ils ne sont pas connus.
Les acteurs du livre pointent également du doigt une absence de volonté politique pour accompagner le secteur littéraire béninois. Lise Degla, jeune écrivaine béninoise, estime que le secteur n'est pas valorisé.
Pas parce que forcément ils ne connaissent pas leurs droits. Normalement, les ouvrages des auteurs devraient être édités à compte d'éditeurs. Les éditeurs devraient faire la promotion de l'ouvrage depuis le manuscrit jusqu'au document final.
Beaucoup pensent également que tout est à refaire pour inciter à nouveau les Béninois à plus lire.
C'est dommage, toute la chaîne du livre est en construction. La production, le maillon de la production, les maisons d'édition. Il n'y a pas assez de maisons d'édition au Bénin. Et même celles qui existent, ces maisons d'édition-là, quel travail elles font sur le terrain.
L'autre difficulté majeure que rencontrent les écrivains est liée au droit d'auteur, une réalité que dénonce Habib Dapogan.
C'est déjà important qu'on commence à associer les acteurs à ce qui leur revient, qu'on organise des manifestations
manifestations, des rencontres, des forats, qu'on discute du droit d'auteur. C'est des questions qui tuent les rapports d'abord entre les écrivains et les éditeurs et qui tuent les droits d'auteur.
Le plus grave est que sur le marché, l'écrivain est impuissant face au piratage de son œuvre. Pour Habib Dapogan, il faut vite trouver une solution.
Il faut que le livre soit rendu disponible. Si le livre est rendu disponible à moindre coût, les apprenants ne seront pas tentés d'aller les photocopier.
Ils sont tous déterminés à donner un nouveau souffle à la littérature béninoise. Mais comment? La question reste encore posée. De Cotonou, Ginette Fleur a donné pour VOA Afrique.
Au Nigeria, le développement de l'agriculture reste un défi à relever pour les autorités fédérales. Parmi les problèmes, citons notamment le faible accès au crédit, le manque de semences de qualité et d'infrastructures et un régime foncier obsolète. Cette situation est la base de l'exode et à la base de l'exode rural des jeunes qui abandonnent l'agriculture. Notre correspondant Gilbert Tamba fait le point sur l'intervention d'une start-up dans le domaine agricole.
Plus de 80% des agriculteurs du Nigeria sont de petits exploitants. Ces producteurs jeunes jouent un rôle dominant en termes de contribution au produit intérieur brut du pays et représentent principalement la main-d'œuvre qui produit 98% des aliments consommés dans le pays. Problème, ils reçoivent très peu de soutien. Aucune politique ou intervention institutionnelle du gouvernement n'aborde le dilemme des petits agriculteurs. Résultat, nombreux abandonnent leur village pour se lancer dans d'autres business, notamment devenir conducteur de mototaxi, principal moyen de transport dans les quartiers d'Abuja, la capitale fédérale. Ayuba Samaïla est l'un d'eux.
Nous n'avons pas d'argent pour acheter de l'engrais, donc c'est la raison pour laquelle nous sommes venus à Abuja pour chercher de l'argent pour aller acheter de l'engrais. Et parfois, l'engrais coûte très cher aussi et nous n'avons pas d'argent. Si vous cultivez par exemple le maïs ou le gingembre, et si vous n'avez pas d'engrais, le tout va se gâter à cause du manque d'engrais et d'argent.
Comment aider ces petits exploitants agricoles à améliorer leur rendement? C'est l'objectif qui s'est fixé Thrive Agric, une start-up du secteur de l'agrotechnologie au Nigeria. C'est l'une des 12 start-up sélectionnées par Google. Uka Eje est le cofondateur de Thrive Agric.
Nous avons remarqué que les cultivateurs ont trois problèmes essentiels. L'argent pour financer leurs champs, donc l'absence de système de financement, le pauvre rendement agricole, par exemple un champ d'un hectares qui pouvaient produire 4 à 5 tonnes, ils ne vont récolter qu'une seule tonne et dans certains moins d'une tonne et en plus aussi ils n'avaient de contrats commerciaux.
À ce jour, plus de 1900 petits exploitants agricoles bénéficient de l'assistance de la start-up au Nigeria. Le financement de ces projets permet aux bailleurs de fonds d'être informés régulièrement sur toutes les activités et les rendements agricoles. Dans cette localité de Guéré, la start-up exploite quelques 325 hectares et pourrait atteindre les 500 d'ici 2019. 32 superviseurs contrôlent chacun 10 hectares. John Buhari Waziri est le coordinateur général.
Je travaille avec Thrive Agri parce que l'homme doit travailler pour se vivre et autre raison est pour acquérir de l'expérience. J'ai travaillé avant avec le gouvernement, avant même si cela n'était pas dans le domaine agricole, mais ici je gagne de nouvelles compétences pour me permettre d'avoir ma vie.
La start-up a lancé ses activités en juillet 2017. Thrive Agric ne veut pas limiter ses opérations au Nigeria seulement, mais entend graduellement poursuivre ses activités dans d'autres pays. Objectif, atteindre plus de 500 millions de petits exploitants agricoles en Afrique. Gilbert Tamba, Abuja, VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Dans la prochaine édition de Votre Santé, Votre Avenir, nous parlerons de l'insomnie.
On parle d'insomnie lorsque l'on a des difficultés à s'endormir à l'heure du coucher, lorsque l'on fait des réveils nocturnes fréquents ou prolongés, ou quand on se réveille prématurément le matin avec une incapacité à retrouver le sommeil.
Pour en parler, nous recevrons Emmanuel Epeng, neurologue en RDC. Il nous donnera des astuces pour éviter l'insomnie.
Nous écouterons le témoignage d'une insomniaque qui nous racontera ses difficultés quotidiennes. Nous donnerons aussi la parole à un psychologue.
Votre santé, votre avenir est un programme de VOA Afrique diffusé les samedis, dimanches et mercredis à 8h30, temps universel.
Ne manquez pas le rendez-vous.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Daryl Smith. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sidoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.